Chapitre 3. Départ et voyage. Les enfants, réveillés de bonne heure, courent dans toutes les chambres, glanant les petits objets qui n'ont pas été emballés la veille, les fourrant dans leurs poches, en bondant les sacs de voyage. Ils montent et descendent les escaliers, leurs bagages à la main, longtemps avant le moment de partir. Mariette. Mademoiselle Blanche, est-ce votre imperméable que je viens de trouver dans le jardin en allant chercher le seau de Mademoiselle Lily? Blanche. Dans le jardin? Drôle de place. Ce n'est pas à moi. Le mien roulé dans sa courroie et dans le vestibule avec mon parapluie et mon encas. Hélène entre en cherchant. Avez-vous vu mon imperméable? Impossible de savoir ce que j'en ai fait. Blanche. Justement, Mariette l'a trouvé au fond du jardin et nous étions bien étonnés de ce qui lui poussait au milieu d'un parterre. Hélène. J'étais allée cueillir une pensée pour la donner à René. On m'a appelée pour déjeuner et je n'ai plus songé que je l'avais placée près de moi. Viens-tu dire adieu à ma tante? Elle pleure en regardant petite Alice. Je lui ai promis que nous la soignerons bien et que je lui écrirai tout ce qu'elle fera. Blanche. Montons vite, car j'entends les voitures. En effet, deux omnibus arrivaient, presque en même temps, l'un de la compagnie de l'Ouest, pour la famille de Valerie, et l'autre de la gare d'Orléans, pour madame de Berneuil. Les bagages, une fois chargés, monsieur de Valerie pressa ces dames de monter en voiture, afin d'abréger les adieux qui étaient surtout pénibles pour madame de Berneuil, la petite Lily ne voulant pas quitter son cou. Hélène alla cependant l'en détacher, l'emmena avec elle et lui donna tout de suite une petite poupée en costume de voyage. L'enfant, toute joyeuse, la montrait par la portière en lui faisant envoyer des baisers. On en échangea entre les deux omnibus jusqu'au coin de la rue. Chacun prit alors une route opposée. En montant la rue d'Amsterdam, grand encombrement de voitures. Monsieur de Valerie descendit afin d'envoyer son domestique prévenir les employés des bagages de venir décharger à l'endroit où il se trouvait. Il commençait à appeler Nicolas lorsque, devant les yeux, du côté du siège, il vit que le cocher seul s'y trouvait. Monsieur de Valerie. Est-ce que mon domestique n'est pas monté sur le siège avec vous? Le cocher. Non, monsieur. Si c'est celui qui a un gilet rouge et un galon d'or à sa casquette, il est monté sur le petit omnibus de la gare d'Orléans. Monsieur de Valerie. Quel imbécile! Ce serait à faire perdre patience à un saint. Puis, étant allé conter l'aventure à sa femme, il ajouta. Vraiment, ma chère, vous êtes trop bonne de garder un pareil niais. N'ayant pas eu la main heureuse en le prenant, il fallait le laisser à Paris. Madame de Valerie. Mais mon ami, il est bien en train d'y rester, ce me semble. Voulez-vous me donner votre sac de voyage? Pendant que vous prendrez les billets, Maurice et Léon vont s'occuper du déchargement des bagages. Miss Lagy, veuillez entrer dans la gare avec mes filles et je vais surveiller nos nombreux colis. L'institutrice, tous les enfants et les bonnes formèrent un groupe auprès de la marchande de journaux. Marcel. Viens voir, Lily, les beaux livres tout rouges et tout dorés comme ceux qui sont sur l'étagère d'Hélène. Oh, la belle image! Un chat avec des bottes. Alice. Mais c'est le chat beauté, je le connais bien, moi. Veux-tu la voir? Voilà dessous. Marcel. Merci, cela coûte plus cher, je crois. Hélène, veux-tu m'acheter ce grand livre de toutes les couleurs? Je te promets d'être bien sage en wagon. Hélène se faisant un peu prier, Marcel la poussa du côté de la marchande, pendant que Lily la débarrassait de tous ses paquets pour qu'elle pût prendre son porte-monnaie dans sa poche. Il en sortit bien rempli et n'y rentra que considérablement aplati. C'est que l'idée du petit garçon avait été trouvée bonne. Blanche et ses frères se choisirent des volumes en disant à leur sœur « Paye toujours, nous ferons nos comptes à Trouville. » Elle-même prit un ouvrage de la bibliothèque rose. Deux feuilles d'images firent le bonheur de Lily. Enfin, tous les bagages sont enregistrés. Monsieur et madame de Valerie viennent de rejoindre leurs enfants. On va entrer dans la salle d'attente lorsque, rouge comme son gilet et soufflant comme un phoque, Nicolas apparaît. Ah, je demande bien pardon à monsieur. C'est que, voyant la voiture où ce qu'étaient monsieur et madame si chargés, je me suis dit qu'il valait mieux monter sur l'autre par pitié pour les pauvres bêtes qui devaient tirer tout cela. Maurice bat à Blanche. Il a l'esprit de famille, ce garçon. Madame de Valerie. Comment nous avez-vous retrouvés? Nicolas. Madame ne sait peut-être pas que j'aime à me rendre compte. Alors j'ai demandé au cocher pourquoi qu'il prenait un autre chemin que son collègue pour aller à la gare, parce que ce n'est pas le même, qu'il me dit. Il y a donc deux gares, Vite, je saute par terre, au risque de me casser le cou, je tourne où ce que j'avais vu tourner l'autre voiture. Ah ben oui, ils vont bien les chevaux à Paris. Sans le garçon épicier que je rencontre, qui me dit son chemin et que c'était à la gare Saint-Médard, que monsieur et madame m'allaient, je ne serais jamais arrivée. Monsieur de Valery. Voyons, Mathilde, si vous décidez que nous l'emmenons à Trouville, faites trêve, je vous prie, à ses discours. Il n'a que le temps de prendre son billet. Lorsqu'on gagna le wagon réservé, monsieur de Valery vit qu'il allait être si bien rempli sans lui qu'il offrit de faire une partie du trajet dans le wagon des fumeurs. Madame de Valery. Reviendrez-vous déjeuner avec nous? Les enfants. Oh oui, papa, c'est si amusant de manger sur ses genoux. Monsieur de Valery. Je viendrai voir si votre couvert me tente. À quel moment sert-on? Madame de Valery. En sortant d'Évreux, vous pourrez prendre votre café à Cerquigny, la même manœuvre que l'année dernière, vous rappelez-vous? C'est vrai. Adieu les petits, ne cassez pas la tête à votre mère en bavardant comme des perroquets. Imitez mon compagnon, qui ne fait pas grand bruit. Et monsieur de Valery montrait son cigare, dont, en s'éloignant, il lançait une première bouffée. On s'installa, non sans quelques murmures, les six enfants se disputant les trois coins restés vacants après que madame de Valery eut pris possession du sien. Blanche. N'est-ce pas, maman, que les hommes doivent toujours donner la meilleure place aux dames? Marcel. D'abord toi, t'es pas une dame, puisque t'as pas de mari. Blanche. Et toi, petit bout d'homme, tu n'es pas assez grand pour que je te fasse l'honneur de discuter avec toi. Marcel. Qu'est-ce que cela fait que je sois petit? C'est avec ma langue que je réponds, et elle est bien aussi longue que la tienne. Et Marcel, en vrai gamin, se tourna vers sa sœur en tirant une langue rose comme une tranche de jambon. Madame de Valery. Finis tout de suite, ce que tu fais est très vilain. Maintenant, je vais régler les places, puisque vous êtes aussi peu raisonnables les uns que les autres. Miss Lagy. Veuillez vous mettre auprès d'une fenêtre, et vous me direz si vous trouvez que nos campagnes françaises ne valent pas celles d'Angleterre. » L'institutrice remercia d'un sourire et, prenant la petite Alice sur ses genoux, s'installa dans un des coins. Madame de Valery, sur les deux restés libres, en adjugea un aux filles, l'autre resta pour les garçons. On devait en jouir à tour de rôle. Chacun ainsi casé, une rage de lecture parcourut le wagon. De tous les sacs sortit un volume, et pendant quelque temps on entendit que le bruissement des feuillets, vivement tourné, rapidement coupé. Maurice, baisse les stores, le soleil nous envahit par trop. Ah, maman, votre phrase me réchauffe. Je lisais Le pays des fourrures de Jules Verne, et il me semblait grelotter au milieu de tant de glaçons. Les stores ne formèrent bientôt qu'un abri insuffisant contre les chauds rayons qui rendaient lumineuse une longue traînée de poussière. Les mouches s'acharnaient sur nos voyageurs, la journée allait être fatigante. Déjà la petite Alice s'était endormie sur les genoux de l'institutrice, et Marcel disait qu'il avait soif, en jetant un coup d'œil sur la gourde que Léon portait en sautoir. Il savait qu'elle contenait certains cocos, tout à fait de son goût. Après en avoir bu quelques gorgées, il suivit l'exemple de sa cousine, et, la tête appuyée sur le sac de voyage de sa mère, il s'endormit aussi. Peu à peu un engourdissement général s'empara des voyageurs. Ils en sortirent brusquement en entendant. Conche, 5 minutes d'arrêt. Madame de Valery se réveillant. Maurice, va vite dire à Nicolas d'apporter le panier de provisions et à ton père que nous allons déjeuner. Maurice part et revient aussitôt. Eh bien, maman, en v'là encore une aventure. Pas de déjeuner. Madame de Valery. Pas de farce, je t'en prie. Serrez-vous pour faire place à votre père. Maurice. Mais maman, je vous assure que je ne dis pas de bêtises. Nicolas s'arrache le toupet de désespoir. Il a laissé le panier sur le siège de l'omnibus de ma tante. » Un immense éclat de rire accueillit cette nouvelle, puis aussitôt. « C'est désolant. Nous mourrons de faim. Comment allons-nous faire maintenant ?» Madame de Valery. « Allez toujours acheter vite quelques brioches. Ah, voilà votre père. Eh bien, Adrien. » Monsieur de Valery. « Eh bien, Mathilde. Il est gentil, rustique. Nous allons être obligés de déjeuner tous à Cerquigny, ce qui est bien incommode pour les bébés. » C'était cependant le seul parti à prendre, et le reste du voyage se passa sans incident remarquable.